franceinter.fr.
La une de la science, donc aujourd'hui, de faux souvenirs implantés dans le cerveau des souris.
Une fois que le cerveau est sous l'emprise d'une idée, celle-ci est presque impossible à éradiquer. Une idée qui est entièrement façonnée, pleinement intégrée, ça s'incruste là-dedans, quelque part.
Voilà, c'est à peu près ce que se sont dit nos scientifiques dans leur laboratoire avec une belle démonstration autour du fonctionnement de notre mémoire. Karim Benchenam, bonjour.
Bonjour.
Marion Lacroix, bienvenue à vous également. Alors, vous êtes neurobiologiste, vous travaillez tous les deux pour le laboratoire CNRS Plasticité du cerveau. Karim Benchenam, vous dirigez l'équipe MOBS à l'origine donc de cette publication parue lundi dans la revue Nature Neuroscience. Vous avez donc réussi à insérer un faux souvenir dans le cerveau d'une souris pendant son sommeil. Il va quand même falloir que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit et comment vous y êtes parvenu.
Oui, donc ça peut paraître un peu marrant, mais en fait tout ça c'est parti de la découverte des cellules de Lieu faites par John O'Keefe en 1971, qui sont des neurones qui se retrouvent dans l'hippocampe, qui est une structure impliquée dans la mémoire, qui déchargent en fait quand l'animal se trouve dans un endroit particulier de l'environnement.
Ça c'était un Nobel d'ailleurs, oui. Pour O'Keefe, sur la géoposition dans le cerveau,
voilà,
c'est ça.
C'est une sorte de GPS interne qui nous permet de naviguer dans l'espace et de nous trouver dans un environnement.
Donc vous êtes inspiré en fait de cette théorie.
Exactement. En gros, c'est quelque chose qui a été découvert en 71 et depuis 30 ans, toutes les découvertes confirment un peu la théorie qu'il a proposée à l'époque. Et donc on a un faisceau d'évidence qui confirme ce qu'il a proposé. Mais la preuve directe, la démonstration directe d'un lien causal entre l'activité de ces cellules et la représentation d'un lieu dans l'espace physique, elle était toujours un peu manquante.
Donc il fallait travailler sur ces neurones de lieu.
Voilà,
c'est ça,
exactement. C'est ce qu'on appelle des cellules de lieu. Et en gros, l'idée, c'est si jamais, quand l'animal est dans un lieu précis, le neurone décharge. La question, c'est est-ce que si, quand l'animal est dans un autre lieu et que ce neurone décharge, est-ce qu'il est en train de penser au lieu précis ?
Est-ce que la souris pense ? C'était ça ?
Et donc, c'est la question. Donc, on va utiliser beaucoup de comme-if, parce qu'on n'a pas de preuve directe de la pensée de la souris. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'une des deuxièmes observations qui a été faite, c'est que la souris fait une trajectoire pendant l'éveil, en fait, quand elle dort, elle rejoue ses trajectoires pendant le sommeil. Donc, on est capable, en fait, de voir les trajectoires que la souris fait en rêvant. Et quand on lui fait un apprentissage, on s'aperçoit qu'elle rejoue ses trajectoires pendant le sommeil et que ses réactivations, ses replays, participent à la consolidation de la mémoire. Et donc, on a utilisé ces activités pendant le sommeil. Parce que là, la position de l'animal était... il y avait une décorrélation entre la position réelle de l'animal, puisqu'il dormait, et l'activité de ses cellules.
C'est carrément de la souris téléguidée, alors, c'est ça ?
Carrément, on ne peut pas choisir exactement ce qu'on lui fait faire. C'est très basique. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est quand la souris rejoue pendant le sommeil une trajectoire, par exemple un endroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une interface sur machine qui peut détecter l'activité de cette cellule de lieu en temps réel. Et quand elle réactive pendant le sommeil un lieu particulier, on va déclencher automatiquement une simulation de récompense. C'est une simulation un peu dans une région du cerveau qui est associée à la notion de plaisir, donc principalement les fibres dopaminergiques. Et donc l'idée, c'est que si le neurone contient toujours une information spatiale pendant le sommeil, si on lui associe une récompense, on va faire une association avec le lieu physique dans l'espace.
Et donc la souris va se diriger directement vers le lieu programmé en fait par vous, c'est ça ?
Quasiment. Donc on n'a pas choisi exactement le lieu, on a pris ce qu'on pouvait avec l'activité des neurones. Mais en fait, on fait cette association avec une cellule de lieu et la récompense, on réveille l'animal, et au réveil, l'animal allait dans le lieu. Donc comme si...
Exactement.
Il avait une représentation de l'association qui avait été faite.
Et tout ça s'est passé pendant le sommeil, ce qui est extrêmement important, évidemment, dans le cadre de cette publication.
Oui, c'est-à-dire que pendant l'exploration avant, on n'avait pas donné de récompense du tout à la souris.
Alors, Marie Lacroix, vous êtes l'une des deux thésardes de l'équipe, et pour réussir cet exploit, vous avez dû, paraît-il, surmonter un défi technique de taille pour suivre justement l'activité d'un seul et unique neurone, c'est ça, dans le cerveau de la souris ?
Oui, en effet. Donc, quand on enregistre l'activité électrique du cerveau, on implante des électrodes, donc c'est quand même très très fin.
Ça fait pas mal à la souris, vous nous rassurez.
Voilà, donc en fait, effectivement, quand on les implante, c'est sous anesthésie générale, donc la souris ne sent rien. L'électrode, c'est plus fin qu'un cheveu. Et donc après, on referme tout et la souris peut se comporter complètement normalement avec ces électrodes qui nous permettent d'enregistrer l'activité de son cerveau.
Et, donc le défi, c'était quoi pour vous ?
Donc le défi, c'était vraiment de pouvoir repérer au sein de toute cette activité neuronale qu'on enregistre, le neurone.
L'unique neurone, c'est ça ?
Enfin, un neurone qui, que l'on peut distinguer des autres et qui a ses propriétés spatiales, donc de cellules de lieu, qui codent bien pour un lieu précis. Effectivement, ça c'était le challenge technique, puisque souvent quand on enregistre l'activité du cerveau, on enregistre beaucoup de neurones à la fois, et donc il faut pouvoir distinguer celui-là en particulier.
Et donc vous avez relevé le défi technique, justement.
Voilà, au bout de...
Axel,
est-ce que ça nous apprend des choses sur notre façon de mémoriser vos travaux publié dernièrement?
En fait, ce que ça montre, c'est que vraiment l'activité des neurones est quasiment suffisante pour entraîner une représentation de l'espace. Et ça montre aussi que ce qui se passe pendant le sommeil, c'est réellement des réactivations des informations spatiales vécues pendant la journée.
Ouais.
Donc c'est vraiment une preuve directe que ce qui se passe pendant le sommeil, c'est vraiment des réactivations de ce qu'on a appris. Et donc c'est la preuve physiologique du remède de grand-mère qui dit qu'il faut apprendre ses leçons avant de se coucher.
Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, pour bien mémoriser, Marie Lacroix, il faut bien dormir,
voilà.
C'est ça
hein. Il faut vraiment retenir ça. Donc effectivement, bon, ça, il y a quand même beaucoup de résultats qui montrent que le sommeil est important pour la mémoire. Mais c'est vrai que nous, donc, par notre article, on précise un petit point voilà, sur tout l'ensemble des connaissances qui existent déjà sur la consolidation de la mémoire pendant le sommeil.
Karine Benchenam, il y avait quand même une prouesse là, pour réussir un tel exploit, parce qu'effectivement, il y avait la théorie, c'est-à-dire qu'il y avait ce prix Nobel, on en a parlé avec vous, et là, vous êtes vraiment dans la démonstration, en fait. Pourquoi c'était aussi long avant de pouvoir vraiment le démontrer?
C'est principalement des problèmes technologiques.
C'est ça,
une technologie qui est exponentielle à l'heure actuelle. La théorie, pareil, des réactivations, ça a été proposé en 1989 par Yuri Boujaki. Donc tout le cadre théorique est là, et parfois c'est un peu frustrant quand on est jeune chercheur, c'est que quand on lit la littérature, on s'aperçoit que tout était déjà un peu là.
Oui.
Simplement, nous, on a la technologie pour le faire plus rapidement. Et après, comme on n'a pas la puissance de feu des Américains, on doit avoir des protocoles un petit peu intelligents.
Eh oui, vous êtes malin, parce que vous arrivez quand même à les devancer et à faire de belles publications. Et c'était pour ça aussi qu'on avait envie de vous inviter aujourd'hui pour en parler, parce que John O'Keefe, donc ce Nobel dont vous parliez tout à l'heure, découvreur donc du système de géoposition dans le cerveau, c'est quelqu'un que vous admirez aussi énormément quand même.
Ouais, complètement. Mais cette découverte, c'est vraiment trouver un iPhone au Moyen-Âge. Enfin, c'est vraiment hallucinant de voir avec tout ce qui...
Parce que sa découverte à lui, c'était les années 70,
des
années 71. 71,
ouais. Vraiment 71. Et en fait, la quasi-totalité, en plus, il a pas seulement fait une découverte, il a apporté tout le cadre conceptuel avec, qui allait, toute une théorie qui s'est avérée vraie.
Il a lu votre publication ou pas?
Alors, je sais pas encore.
Ah bah, il faut lui envoyer tout de suite, en tout cas, Axel.
Est-ce qu'il faut avoir peur des applications humaines dans 30 ans? Puisque maintenant, on parle à saut de 30 ans.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement avec ça? Parce que là, on est sur la souris. D'abord, est-ce qu'on peut le transposer à l'humain? Et ensuite, quel type d'application, effectivement?
Oui, alors, bon, le gros problème, c'est de mettre des électrodes dans le cerveau. Et ça reste un problème majeur. On ne va pas le faire pour contrôler sa télécommande. Donc, c'est utilisé en traitement chez des patients épileptiques ou de tumeurs. Mais ça ne peut pas être généralisé pour des applications autre que des applications cliniques majeures. Donc, après, une des possibilités, c'est sur le stress post-traumatique ou des choses comme ça, parce que l'idée, c'est de remettre les gens dans une situation proche de la situation traumatisante et d'essayer d'inverser la valence de cette expérience. Mmh. Le problème, c'est que le cerveau sait que c'est faux. Même si on le met dans des imageries virtuelles ou des choses comme ça pour être plus immersif, le cerveau sait que c'est faux. Et l'hypothèse, c'est que si on arrive à le faire pendant le sommeil, bah là, pendant le sommeil, pendant les rêves, pour le cerveau, c'est vrai.
Ouais.
Et donc, on serait peut-être plus efficace. Mais
pour
ça,
désactiver le traumatisme, en fait,
voilà,
c'est un peu ça.
Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est on met une récompense. Mais on ne veut surtout pas faire ça chez l'homme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre une récompense pour quelque chose qui est aversif. On veut casser l'association aversive. Donc, il faudra trouver un autre mécanisme. On veut surtout pas rendre
avec tous les problèmes éthiques qui se posent évidemment sur la manipulation mentale, hein, parce qu'en fait on peut en arriver là quasiment, même si a priori il y a de belles applications possibles, mais ça pose un certain nombre de problèmes.
Toujours. Après c'est vrai, et vous avez fait une émission là-dessus, on peut le faire aussi avec des manips simplement de psychologie, et on peut arriver aux mêmes observations qu'avec des électrodes qui vont coûter très très cher pour un seul sujet, et avec des expériences qui durent très longtemps.
Marie Lacroix, qu'est-ce que ça fait de commencer sa jeune carrière de scientifique avec déjà une découverte d'une telle envergure quand même?
Je pense que j'ai surtout eu la chance d'arriver au bon moment dans l'équipe de Karim.
Ouais.
Et effectivement, oui, c'est, C'est une très grande chance.
Ça commence bien, en tout cas. Et félicitations donc pour cette publication qui est parue lundi. Axel, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre à la Une de la Science, on peut désormais podcaster ce rendez-vous séparément.
Séparément, vous pouvez podcaster les 10 minutes de la Une, en plus du dossier tous les jours pour écouter dans les transports, par exemple.
Et avoir 10 minutes de science, comme ça.
Voilà. Et le week-end, vous rattrapez les dossiers, vous n'avez pas le temps d'écouter la semaine.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Néandertal portait-il des colliers? Une équipe de paléontologues croates a découvert 8 serres d'aigles géants perforés et portant des traces d'usure et qui suggèrent donc qu'ils ont enfilé ces serres sur un lacet, un trophée de chasse sur un site néandertalien qui chamboule l'ordre d'émergence des traits culturels de nos ancêtres. Jusqu'ici, seul Homo sapiens s'était considéré comme ayant un esprit capable d'un tel comportement symbolique. Une crevette géante de 2 mètres de long qui se nourrit en filtrant l'eau comme les baleines, voilà ce que vous auriez pu croiser dans les eaux de l'Atlantique il y a 480 millions d'années. Ce nouveau spécimen, nommé Ergirocassis Ben Moulaé, du nom de son découvreur marocain, Mohamed Ben Moula, est parmi les plus gros fossiles d'animaux marins de son époque. Il s'agirait d'un lointain cousin du groupe des arthropodes actuels qui comprend les invertébrés recouverts d'une carapace comme les crustacés, les araignées et les insectes. Et puis l'heure du réveil a-t-elle sonné pour Philae depuis ce matin et pour une semaine? Les astronomes de l'ESA vont tenter d'entrer en contact avec la petite sonde posée sur la surface de la comète Chury en novembre dernier. Les responsables de mission n'ont pas la certitude que le robot Philae puisse sortir de son mode de veille compte tenu du froid subi durant les derniers mois, mais ils se disent raisonnablement optimistes. Nous croisons donc tous les doigts pour Philae.